Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée mercredi 12 mai, notamment par l'audience générale du pape. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira en Ouganda, au Soudan et en République démocratique du Congo, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Le pape a repris mercredi ses audiences en présence des fidèles après 6 mois pendant lesquels il tenait ses audiences à travers les médias depuis la bibliothèque du Palais apostolique. Au cours de cette audience générale de mercredi depuis la cour Saint-Damas du Vatican, il a poursuivi sa catéchèse sur la prière abordant le thème du combat dans la prière. La prière chrétienne, comme toute la vie chrétienne, est un combat intérieur, parfois dur, qui peut durer tout au long de la vie. Prier n'est pas une chose facile, a déclaré le pape. En effet, le silence, la prière, la concentration sont des exercices difficiles et quelquefois la nature humaine se rébelle. C'est pourquoi celui qui veut prier doit se rappeler que la foi n'est pas facile et qu'elle avance parfois dans une obscurité presque totale, sans point de référence. Les pires ennemis de la prière se trouvent en nous. Pour le catéchisme, il s'agit du découragement, de la tristesse, de la déception, de notre orgueil et de l'allergie à la gratuité de la prière. Face à ces tentations, alors que tout semble vaciller, les maîtres spirituels ont montré l'importance de résister et de persévérer dans la prière. Les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola nous enseignent, par exemple, à mettre de l'ordre dans notre vie et à chercher à faire le bien même quand cela devient difficile. Dans les moments d'épreuve, il est bon de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Jésus est toujours avec nous, même si dans un moment d'aveuglement, nous ne parvenons pas à voir sa présence, nous y parviendrons à l'avenir. Ainsi, à la fin de notre vie, nous pourrons dire « Je pensais être seul, mais non, je ne l'étais pas. Jésus était avec moi. » À la fin de la catéchèse, le pape a, comme d'habitude, salué les fidèles de langue française en ces termes.
Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese.
Je salue cordialement les personnes de langue française. Frères et sœurs, en ce mois consacré à la Vierge Marie, apprenons d'elle que la prière est la meilleure arme de la vie chrétienne et que sans une prière persévérante, aucune victoire sur le mal n'est possible. Sur vous et sur chacune de vos familles, j'invoque la bénédiction de Dieu.
Su di voi e su ciascuna delle vostre famiglie, invoco la benedizione di Dio.
Après son audience générale, le Saint-Père a reçu en audience privée M. Heiko Maas, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Du 13 mai 1981 au 13 mai 2021, cela fait 40 ans depuis l'attaque dramatique contre le pape Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre, un jour qui est entré dans la mémoire collective comme victoire de l'amour et la prière sur la haine. L'archidiocèse de Johannesburg en Afrique du Sud a récemment inauguré un nouveau bureau chargé de suivre de près et de soutenir le mariage et la vie familiale. Le nouvel organisme ou bureau du mariage et de la vie familiale veut être la réponse de l'Église locale à l'année de la famille à Maurice Laetitia, appelée par le Saint-Père pour célébrer les 5 ans de la publication de l'exhortation apostolique homonyme, résultat des 2 synodes sur la famille tenus en 2014 et en 2015. La conférence des évêques du Nigeria a lancé un appel fort et clair au gouvernement national pour qu'il s'attaque de toute urgence à l'insécurité endémique dans le pays. Dans une récente lettre ouverte adressée au gouvernement, Mgr Augustin Akubedze, archevêque de Benin City et président de la conférence des évêques du Nigeria, souligne l'échec de l'exécutif par rapport à l'obligation constitutionnelle de protéger la vie et les biens des Nigérians, d'œuvrer pour le bien-être de tous, de défendre la liberté de religion et de protéger la population de tout type de discrimination. En prélude à l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association nationale de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire prévue pour mardi 1er juin au centre CERAO de pastorale et de mission, un atelier s'est tenu les jeudis 6 et vendredi 7 mai au centre Père Mathuré de Koumassi dans le diocèse de Grand Bassam dans le but de mieux la préparer. Plus de détails dans ce reportage.
Rassemblant les 15 secrétaires exécutifs diocésains de l'éducation catholique autour du premier responsable du système éducatif catholique ivoirien, le père Jean-Luc Assoua-Andrémont, cette séance de travail a été l'occasion pour les participants d'élaborer, selon Andrémont Begou-Raymond, secrétaire exécutif adjoint chargé de l'administration et des affaires juridiques de l'éducation catholique du Côte d'Ivoire, les sujets qui seront inscrits à l'ordre du jour.
Il faut rappeler que les écoles catholiques de Côte d'Ivoire sont organisées en associations. D'abord, il y a les associations au niveau local qu'on appelle les associations diocésaines. Et les associations diocésaines se sont constituées en une fêtière qu'on appelle l'association nationale. C'est l'association nationale, selon ses dispositions statutaires, doit faire au moins une fois dans l'année une assemblée générale. Avec l'autorisation du président du conseil d'administration qui est le président de la commission, nous avons organisé cet atelier-là pour préparer cette assemblée générale. Donc nous avons ensemble élaboré les points qui sont inscrits à l'ordre du jour.
Au cours de cette rencontre, les secrétaires exécutifs ont également échangé sur les aspects techniques de cette assemblée, ont été informés sur l'état d'avancement des travaux de la mise en place du cadre permanent de dialogue social, aussi des résultats des enquêtes pour l'étude de faisabilité de la mutuelle sociale du personnel de l'éducation catholique par le cabinet d'assistance technique CIGEM. Soulignons qu'au cours de cette rencontre, plusieurs partenaires chargés d'accompagner l'éducation catholique de Côte d'Ivoire dans sa réforme ont été présentés ainsi que leurs offres de services pour le système éducatif catholique. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Rendons-nous à Ouagadougou, au Burkina Faso, où notre correspondant local nous relate la rupture du jeûne de Ramadan organisé à l'archevêché de Ouagadougou.
Allahu Akbar, Allah.
Cet appel du muezzin, c'est de la cour de l'archevêché de Ouagadougou qui l'a ainsi retenti. Et pour cause, sur initiative de la Ligue islamique pour la paix au Faso, c'est à l'archevêché de Ouagadougou que s'est effectuée de façon collective la rupture du jeûne et la prière du soir de ce lundi 10 mai 2021. Le président de la Ligue islamique pour la paix au Faso, El-Hadj Ousseni Tapsoba.
Nous voulons que tout le monde sache que les gens se réfèrent à cette soirée inédite. Parce que c'est jamais vu. Et nous demandons à toutes les couches de s'attraper main dans la main pour l'intérêt des populations du Burkina Faso. Le cardinal n'a jamais ménagé aucun effort, en tout cas pour la recherche de la cohésion interreligieuse. Et comme on était en fin de carême, nous avons estimé qu'il était normal qu'on vienne rompre le carême à son archevêché pour lui remercier de continuer dans cette lancée pour la cohésion nationale du Burkina Faso.
Le cardinal Philippe, en remerciant ses hôtes venus nombreux à son archevêché, apprécie.
Cette présence ici répond bien à nos préoccupations. Il nous faut ensemble démolir les murs de haine, de séparation, d'incompréhension, d'intolérance pour bâtir des ponts. Alors ils sont venus bâtir un pont ce soir, un pont de la fraternité. La fraternité, la tolérance pour un monde réconcilié dans la justice et la paix véritable. Vraiment nous sommes très reconnaissants pour tout ce que fait la Ligue islamique pour la paix au Faso. Nous les encourageons à continuer de plus belle.
Par anticipation, son éminence a souhaité bonne fête de Ramadan aux musulmans. Paul da Ouagadougou pour Radio Vatican.
Du 4 au 9 mai, Monseigneur Rosario Pio Ramolo, évêque de Gor, nous sommes au Congo-Brazzaville, a effectué une visite pastorale dans la paroisse Saint-Joseph de Donia. Au terme de cette visite, 214 fidèles de la dite paroisse ont reçu des mains de l'ordinaire du lieu le sacrement de confirmation. En voici le compte-rendu.
Dans son mot de circonstance, le curé de la paroisse Saint-Joseph de Donia, abbé Innocent Bailassom, s'est tout d'abord réjoui de la présence de l'évêque au milieu de ses fidèles comme signe de bénédiction avant d'inviter tout le monde à mettre à profit ce temps de partage d'expérience pastorale, de fraternité et de communion ecclésiale. Les échanges ont porté essentiellement sur les activités pastorales soumises à l'épreuve de COVID-19 et les perspectives d'avenir. Ces échanges se sont conclus sur une note positive au vu de reprise des activités activités pastorales avec les moments de communion et des célébrations des sacrements. Une messe présidée par l'ordinaire du lieu a mis un terme aux échanges. Messe au cours de laquelle 214 fidèles de la dite paroisse ont reçu des mains de Mgr Rosario Pio Ramolo le sacrement de confirmation. S'appuyant sur les textes de ce sixième dimanche de Pâques, le prélat a tout d'abord insisté sur le témoignage d'amour comme l'identité de tout chrétien avant de revenir sur les confirmants. La mission de ces derniers, poursuit Mgr Rosario, est de témoigner le Christ en toutes circonstances par l'annonce de la bonne nouvelle et l'amour du prochain. Pour la liturgie du sacrement, après l'appel et le dialogue entre l'évêque et les confirmants, ce fut la profession de foi suivie de l'imposition des mains et la chrismation. Notons enfin que la joie débordante de l'assemblée a été manifestée au terme de cette célébration riche en couleurs par les cadeaux en nature et en espèces offerts à l'ordinaire du lieu pour sa mission. Severin Nigatolum pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le président ougandais Yoweri Museveni, réélu en janvier pour un sixième mandat, a prêté serment mercredi lors d'une cérémonie dans la capitale Kampala, placée sous haute sécurité pour éviter toute manifestation de l'opposition qui conteste son élection. Selon les résultats officiels, M. Museveni a obtenu 58% des voix lors du scrutin du 14 janvier, dénoncé comme une mascarade par son principal opposant, Bobi Wine, crédité de 35% des voix. Un important dispositif de sécurité avait été mis en place pour cette cérémonie à laquelle ont assisté 11 chefs d'État du continent africain, à savoir Kenya, Tanzanie, Éthiopie, Zimbabwe, Somalie, Burundi, République démocratique du Congo, Ghana, Soudan du Sud, Guinée et Namibie, ainsi que des représentants chinois et russes, afin d'éviter des perturbations de la part de l'opposition. Les principaux leaders de l'opposition, Bobi Wine et Kizza Besigye, ont indiqué que leur résidence avait été encerclée par des policiers et militaires en armes. Deux personnes ont été tuées à Khartoum dans la dispersion par les forces de sécurité soudanaises d'un rassemblement réclamant justice pour les manifestants morts lors des protestations populaires ayant conduit au départ du président Omar El-Béchir en 2019. Le premier ministre Abdallah Hamdok s'est dit choqué par la mort des deux manifestants mardi, dénonçant comme un crime les tirs à balles réelles contre un rassemblement pacifique. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées mardi soir devant le quartier général de l'armée, à l'endroit où des milliers de personnes se sont rassemblées en 2019 pour réclamer l'éviction du président Béchir et le transfert du pouvoir aux civils. Le procureur général d'Égypte a ordonné mardi la libération d'un groupe de jeunes accusés d'avoir violé une femme dans un hôtel de luxe du Caire en 2014 suite à des accusations sur Internet l'année dernière. L'agression présumée qui a eu lieu à l'hôtel Fairmont, un hôtel 5 étoiles du Caire, impliquait un groupe de jeunes issus de familles aisées qui aurait drogué et violé une jeune femme selon des témoignages sur les réseaux sociaux sur lesquels les procureurs ont enquêté. Il n'y a pas suffisamment de preuves contre les accusés pour poursuivre une affaire pénale. La libération des personnes temporairement détenues a été ordonnée, a déclaré le procureur général dans un communiqué. Le procureur a expliqué avoir poursuivi les auteurs présumés en mettant en place des interdictions de sortie du territoire et en émettant des mandats d'arrêt internationaux pour l'extradition de trois d'entre eux du Liban.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Plus de 20 Congolaises ont affirmé avoir été victimes d'abus sexuels sous forme de chantage à l'emploi par des travailleurs humanitaires dans l'est de la République démocratique du Congo, selon une enquête publiée mercredi. Au total, 22 femmes de la ville de Butembo ont déclaré que des travailleurs humanitaires masculins intervenant dans le cadre d'une crise d'Ebola leur ont offert des emplois en échange de relations sexuelles. 14 de ces femmes ont déclaré que les hommes se sont identifiés comme étant des travailleurs de l'Organisation mondiale de la santé, indique cette enquête. L'une de ces femmes est décédée après un avortement raté alors qu'elle tentait de dissimuler sa grossesse à son mari et à ses enfants, a déclaré sa sœur, citée dans l'enquête des journalistes. L'Organisation mondiale de la santé, qui avait joué un rôle moteur dans la riposte de cette épidémie, a indiqué qu'une enquête interne a permis d'identifier deux victimes potentielles, tandis que 14 plaintes, dont celles portant sur des cas présumés de viol, ont été déposées contre cette organisation, selon la même enquête. Près de 200 Tchadiens de partis se réclamant de l'opposition ont manifesté mercredi à N'Djamena leur soutien indéfectible au pouvoir militaire dirigé par le fils du président Idriss Déby Itno, décédé en avril. Il s'agissait de la première manifestation autorisée par le Conseil militaire de transition qui s'est proclamé à la tête du pays le 20 avril à l'annonce du décès du maréchal Déby qui dirigeait le Tchad depuis 30 ans. Depuis plusieurs années, les manifestations de la frange de l'opposition hostile au pouvoir ont été systématiquement interdites et violemment dispersées.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine sur les organisations internationales et la solidarité avec Françoise Niamien.
Les organisations internationales au service de la coopération, du développement et de la solidarité entre les peuples.
Notre magazine sur les organisations internationales et solidarité parle aujourd'hui de l'insécurité alimentaire aiguë qui a atteint son niveau le plus élevé en 5 ans. Selon le rapport mondial sur les crises alimentaires du réseau mondial contre les crises alimentaires. En 2020, le nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire aiguë et connaissant le besoin urgent d'une aide qui préserve leur existence et leurs moyens de subsistance a atteint son niveau le plus élevé en 5 ans dans les pays en proie à des crises alimentaires. C'est ce qui ressort d'un rapport annuel publié par le Réseau mondial contre les crises alimentaires, l'Alliance internationale qui rassemble des institutions des Nations unies, l'Union européenne et des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans la lutte contre les crises alimentaires. C'est un avertissement sévère que nous dresse le rapport mondial de 2021 sur les crises alimentaires. Le conflit, les chocs économiques, souvent liés à la COVID-19, et les conditions météorologiques extrêmes continuent de précipiter des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire aiguë. Le rapport du Réseau mondial contre les crises alimentaires révèle qu'au moins 155 millions de personnes dans 55 pays ou territoires faisaient face à l'insécurité alimentaire aiguë à un niveau de crise ou pire, phase 3 à 5 du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire en 2020, soit environ 20 millions de personnes de plus que l'année précédente. Par ailleurs, la publication met en garde contre une évolution inquiétante. L'insécurité alimentaire aiguë ne cesse de progresser depuis 2017, année de la première édition de ce rapport. Parmi les personnes touchées, 133 000 environ connaissant en 2020 une situation correspondant à la phase d'insécurité alimentaire aiguë la plus grave au Burkina Faso, au Soudan du Sud et au Yémen, où une intervention d'urgence était nécessaire pour éviter de nombreux décès et un effondrement complet des moyens de subsistance. Par ailleurs, au moins 28 millions de personnes étaient confrontées à un degré d'insécurité alimentaire aiguë correspondant à une situation d'urgence en 2020, soit un état très proche de l'inanition dans 38 pays et territoires où une action urgente a permis de sauver des vies et des moyens de subsistance et d'éviter que la famine ne gagne du terrain. Dans les 39 pays et territoires qui ont connu des crises alimentaires au cours des 5 dernières années où le Réseau mondial a publié ses rapports annuels, le nombre de personnes confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë est passé de 94 millions à 147 millions entre 2016 et 2020. En outre, dans les 55 pays et territoires frappés par une crise alimentaire dont traite le rapport, plus de 75 millions d'enfants de moins de 5 ans souffraient d'un retard de croissance trop petite taille et plus de 15 millions d'entre eux souffraient d'émaciation, maigreur excessive en 2020. Les pays d'Afrique restent frappés de manière disproportionnée par l'insécurité alimentaire aiguë. En 2020, près de 98 millions de personnes touchées se trouvaient sur le continent africain. Un an après que la pandémie de COVID-19 a été déclarée, les perspectives s'annoncent sombres pour 2021. Les conflits, les restrictions liées à la pandémie qui entretiennent les difficultés alimentaires et la menace persistante de conditions météorologiques difficiles continueront probablement de déclencher des crises alimentaires. Le réseau mondial souligne qu'il faut agir sans tarder, avec détermination, et exhorte la communauté internationale à se mobiliser contre la faim. Pour le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, nous devons nous attaquer à la faim et au conflit en même temps, afin de venir à bout de ces deux fléaux. Nous devons tout faire pour mettre fin à ce cercle vicieux. Le combat contre la faim est l'un des fondements de la stabilité et de la paix, déclare le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, dans l'avant-propos au rapport.
Parlons à présent éducation avec
Camille Mukoso.
Commençons notre rubrique sur l'éducation par l'initiative lancée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO sur la transformation de la formation professionnelle à marché d'emploi en Afrique. Les 15 à 24 ans représentent 20% de la population africaine, mais plus de 40% des chômeurs. Les parcours d'enseignement et formation technique et professionnelle ont un grand rôle à jouer pour favoriser leur insertion professionnelle et lutter contre la précarité. Renforcer l'adéquation entre l'office des formations professionnelles et la demande des employeurs est un enjeu majeur en Afrique, dans un contexte où l'économie informelle est prégnante et les marchés du travail très volatiles. Le décalage entre les compétences disponibles et besoin de l'économie est en effet un frein à l'emploi et à la croissance. Ces défis de l'employabilité est d'autant plus grand que le continent aura 5 millions de jeunes sur le marché du travail d'ici 2030 en raison du boom démographique. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a mis en place une nouvelle boîte à outils en ligne sur l'éducation complète à la sexualité, l'éducation aux compétences utiles dans la vie courante, éducation aux relations et à la sexualité, éducation à la vie familiale ou éducation au VIH, quels que soient les différents termes utilisés par les pays. L'objectif reste le même, celui de fournir à tous les jeunes des informations fondées sur les données factuelles et adaptées à leur âge pour les aider à acquérir les compétences et les valeurs dont ils ont besoin pour grandir en bonne santé et heureux. Pour aider tous ceux qui conçoivent et examinent ces programmes, l'UNESCO a développé une boîte à outils en ligne où sont rassemblées et distillées des données factuelles sur les programmes et qui indiquent les ressources pertinentes à utiliser aux différentes étapes de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des programmes. La boîte à outils fournit des informations utiles tant à l'échelle nationale qu'au niveau local ou scolaire, notamment sur les démarrages et la conception d'un programme, sa gestion et son évaluation, les types de formation et d'accompagnement des enseignants qui doit être mis en place et ce que signifie un engagement communautaire. L'éducation complète à la sexualité, ainsi dénommée à l'échelle mondiale, est au cœur de la santé et du bien-être. Elle inclut l'éducation aux droits de l'homme, la sexualité humaine, l'égalité entre les genres, la puberté, les relations et la santé sexuelle et reproductive. L'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale ont mené conjointement une enquête pour suivre les réponses nationales au secteur de l'éducation face à la fermeture des établissements scolaires liés à la pandémie du nouveau coronavirus. Dans le cadre de la riposte mondiale coordonnée de l'éducation à la pandémie de la COVID-19, l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale lancent la deuxième version de l'enquête sur les réponses nationales du secteur de l'éducation face à la fermeture des établissements scolaires liés à la pandémie. Il s'agit de la seconde de la série d'enquêtes enquête administrée pour assurer que les dernières informations sur l'évolution des ripostes nationales à la COVID-19 sont collectées. La première enquête a été menée en juin 2020 et a couvert 118 pays. L'enquête vise à recueillir des informations auprès des États membres sur l'ampleur, à l'échelle de tous les pays, des réponses de l'éducation nationale face à la fermeture massive des établissements scolaires. Les réponses à l'enquête contribueront à mieux guider les réponses locales nationales pour atténuer l'impact de la fermeture des établissements scolaires et à aider à préparer la réouverture des écoles. Les résultats contribueront également à éclairer les actions des partenaires mobilisés par les biais de la Coalition mondiale COVID-19 de l'UNESCO pour l'éducation. En Algérie, les secteurs de l'éducation est en grève pour 3 jours à l'appel des 14 principaux syndicats du secteur. L'enseignement de l'école élémentaire, moyenne et secondaire, personnel de l'administration centrale et technique, ont débrayé depuis le dimanche 9 mai dernier, selon le président du syndicat national des professeurs de l'enseignement secondaire et technique qui parle d'une grève très bien suivie à travers le pays. Pour Mézièm Marianne, président du syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique, les enseignants ont des revendications salariales sur leur retraite, mais surtout, ils demandent des solutions à leurs problèmes. Ces leaders syndicalistes parlent d'un secteur de l'éducation désespéré, l'inflation, des salaires qui n'ont pas augmenté depuis près de 10 ans, ou encore un enseignant du primaire qui, en début de carrière, touche aujourd'hui un salaire mensuel de quelques 125 euros. Tout cela ne leur permet plus de nouer les débouts à la fin du mois. Pas d'année blanche, rassure le ministère de l'Éducation en Tunisie. L'actuelle année scolaire a été considérablement perturbée par la crise pandémique. Le directeur des examens nationaux au sein du ministère de l'Éducation a fait savoir dans ces sens. Il a expliqué que le ministère dispose d'un calendrier pour organiser les examens nationaux, normalement tout en respectant les dispositions sanitaires et les modalités pour terminer les programmes d'enseignement.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboilo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.